2. Les Istaris. L'histoire la plus complète des Istaris fut écrite, semble-t-il, en 1954. Je donne ici le texte en entier, pour son origine, voire l'introduction, et j'y ferai référence par la suite sous le titre « L'essai sur les Istaris ». Par « magicien », on traduit le Quenya Istar, Ithron en Sindarin, l'un des membres d'un ordre, c'était leur terme, affirmant détenir et mettre en œuvre un savoir éminent touchant l'histoire et la nature du monde. La traduction, bien qu'elle convienne dans son rapport avec sage et autres mots anciens portant notion d'un savoir prééminent à l'instar du terme Istar en Quenya, n'est pas entièrement satisfaisante, pour autant que le Eren Istarion, ou ordre des magiciens, soit chose parfaitement distincte de tous les magiciens et devins des légendes plus tardives. Ces magiciens sont uniquement ceux du troisième âge, qui après s'enfuirent, et nul, sauf peut-être Elrond, Círdan et Galadriel, ne devaient découvrir quelle était leur nature véritable et d'où ils venaient. Les hommes qu'ils fréquentèrent les prirent, au début, pour d'autres hommes ayant acquis savoir et savoir-faire grâce à de patientes et secrètes études. Ils apparurent pour la première fois en Terre du Milieu vers l'an 1000 du Troisième Âge. Mais longtemps ils allèrent sous d'humbles apparences, tels des hommes avancés en âge, mais encore robustes de corps, voyageurs errants qui étudiaient la Terre du Milieu et tous ceux qui y vivaient, sans rien révéler à quiconque de leur pouvoir et de leur dessein. À cette époque, les hommes ne les entrevoyaient que rarement et ne leur prêtaient guère attention. Mais lorsque ressurgit l'ombre de Sauron et qu'il reprit forme physique, ils se firent plus actifs et s'efforcèrent sans cesse de contrer la croissance de l'ombre et d'inciter les elfes et les hommes à se méfier de ce péril. C'est alors qu'un peu partout parmi les hommes se répandit la rumeur de leurs allées et venues dans de lointaines contrées et de leurs interventions en maintes affaires. Et les hommes remarquèrent qu'ils ne mouraient point, mais demeuraient tels qu'ils étaient venus, sauf pour une apparence peut-être un peu plus marquée par les années, alors que la mort prenait les pères et les fils des hommes. Et voici que les hommes se mirent à les craindre, et pourtant ils les aimaient, les tenant pour membres du peuple des elfes, qu'ils fréquentaient en effet bien souvent. Et cependant, ils étaient autres, car ils venaient de l'ouest absolu au-delà des mers. Bien que cela ne fût su, et de longue date, que du seul Círdan, gardien du troisième anneau et maître des Havres gris, qui les avait vus poser le pied sur les rivages occidentaux. Des émissaires des Valar, voilà ce qu'ils étaient, mandés par les seigneurs de l'Ouest, qui se concertaient toujours sur la gestion de la Terre du Milieu, et qui, lorsque l'ombre de Sauron se ranima, eurent recours à ce moyen pour lui résister. Car avec le consentement des Rûs, ils envoyèrent en Terre du Milieu des membres de leur propre haut ordre, revêtus de corps d'hommes véritables, et non point seulement l'apparence, et sujets aux peurs et aux douleurs et aux fatigues de la terre, capables de souffrir la faim et la soif, et même la mort. Mais par leur noble nature, ils ne mouraient point, et ne vieillirent que sous l'effet des soucis et de leurs longues années de labeur. Et à tout cela, les Valar se résolurent, souhaitant réparer leurs erreurs d'antan, et plus particulièrement d'avoir voulu protéger et isoler les Eldar en usant de leur propre puissance et de leur gloire pleinement révélée. Aussi, il fut fait interdiction à leurs émissaires actuels de se révéler en majesté ou de chercher à influer sur les volontés des hommes et des elfes en exhibant leur pouvoir. Tout au contraire, ils devaient venir parmi les hommes sous des dehors de faiblesse et d'humilité, avec mission de conseiller et d'amener les elfes et les hommes vers le bien et de chercher à unir dans l'amour et la mutuelle compréhension tous ceux que Sauron, s'il surgissait à nouveau, s'efforcerait de dominer et de corrompre. De cet ordre, on ignore le nombre, mais ils étaient 5 de leurs chefs qui vinrent au nord de la Terre du Milieu, où l'espoir était le plus vivace, car là vivaient les Eldar et les restes des Dúnedain. Le premier qui arriva avait grande allure et noble maintien, les cheveux de jais et la voix très suave, tout vêtu de blanc. Très habile était-il dans les arts de la main, et tous, ils le tinrent, même les Eldar, comme le premier de son ordre. Il en vint d'autres, deux vêtus de bleu outre-mer, et un qui portait un habit couleur de terre. Et le dernier vint, qui parut le moins considérable de tous, plus petit que les autres et plus âgé d'aspect, et il avait les cheveux gris et la vêture grise, et il s'appuyait sur un bâton. Mais dès leur première rencontre au Havre gris, Kildan vit en lui le plus puissant des esprits et le plus sage. Et il l'accueillit avec révérence et lui remit le troisième anneau, Narya le Rouge. « Car, dit-il, il va t'échoir de grands travaux et de grands périls. Et pour que ta tâche ne s'avère point trop ardue et exténuante, prends donc cet anneau qui te procurera assistance et réconfort. J'en reçus seulement la garde, à charge de le tenir caché. Et ici, sur les rivages de l'ouest, il reste inemployé. Mais je considère que le jour est venu où il lui faut se trouver en de plus nobles mains que les miennes, et des mains qui pourront l'utiliser pour enflammer le courage en tous les cœurs. » Et l'émissaire gris prit l'anneau, et jamais n'en souffla mot à personne. Cependant l'émissaire blanc, habile à percer à jour les secrets d'autrui, quelque temps après s'en avisa et le jalousa, et ce fut la source de sa rancune envers l'émissaire gris, laquelle devait se révéler par la suite. Or, parmi les elfes, l'émissaire blanc fut connu plus tard sous le nom de Kurunir, l'homme habile, et dans le parler des hommes du Nord, sous le nom de Saruman. Mais cela, seulement au retour de ses nombreux voyages, lorsqu'il vint au royaume du Gondor pour y établir sa demeure. Des deux émissaires bleus, on ne sut pas grand-chose dans l'Ouest, et ils n'avaient point d'autre nom, hormis Ithrin Luin, les magiciens bleus, car ils se rendirent à l'Est en compagnie de Kurunir, mais jamais ne revinrent. Et à ce jour, on ignore s'ils restèrent dans l'Est pour accomplir la mission qui leur avait été confiée, ou bien s'ils trouvèrent la mort, ou encore, comme le pensèrent certains, s'ils succombèrent aux machinations de Sauron et finirent par le servir. Et ces éventualités sont toutes plausibles, car aussi étrange que cela puisse paraître, les Istari, ayant revêtu corps de la terre du milieu, pouvaient, tout comme les hommes et les elfes, faillir dans leurs desseins, oublieux du bien dans leur quête pour trouver les moyens de l'accomplir. Un passage séparé écrit en marge appartient très certainement à ce même développement. Car on dit en effet qu'ayant revêtu un corps, les Istari devaient réapprendre maintes choses et par lente expérience, et que bien qu'ils aient su d'où ils venaient, le souvenir du royaume béni leur était vision lointaine qui, tant qu'ils demeuraient fidèles à leur mission, les emplissait d'un profond languir. C'est donc seulement en consentant librement à souffrir les affres de l'exil et les noires perfidies de Sauron qu'ils avaient espoir de porter remède aux maux de l'époque. Au demeurant, de tous les Istari, un seul resta fidèle, et ce fut le dernier venu, car Radagast, le quatrième, se prit d'amour pour toutes les bêtes et les oiseaux qui foisonnaient en terre du milieu, et il abandonna elfes et hommes, passant ses jours parmi les créatures sauvages. D'où lui vint son nom, qui dans le parler de Numenor de jadis, signifiait, dit-on, « protecteur des bêtes ». Et Kurunir Lan, Saruman le Blanc, trahit sa haute mission et se fit plein de superbe, empli d'impatience et avide de pouvoir, et chercha à imposer par la force sa propre volonté et à évincer Sauron. Mais il fut pris dans les raies de cet esprit ténébreux, plus puissant que lui. Et les elfes nommèrent le dernier venu Mithrandir, le pèlerin gris, car il était toujours par monts et par veaux et n'amassa point de richesses, ni ne rassembla de gens à sa suite, mais ne cessait de parcourir les terres de l'Ouest, du Gondor à Langmar et du Lindon à la Lorienne, secourable envers tous en temps de besoin. Il avait l'esprit chaleureux et curieux de toutes choses, et l'anneau Narya avivait en lui ses dispositions, car il était l'ennemi de Sauron, opposant au feu qui dévore et désole, le feu qui soulage la détresse et attise l'espoir défaillant. Mais sa joie, comme ses soudains emportements, restait voilée de sa vêture d'un gris de cendre, de sorte que seuls ceux qui le connaissaient bien entrevoyaient la flamme qui l'habitait. Et il pouvait être gai et bienveillant envers les tout jeunes et les très humbles, et cependant acerbe, le cas échéant, et prompt à pointer du doigt la bêtise. Mais il était sans morgue aucune et ne recherchait ni le pouvoir ni les éloges. Et de loin et de près, il était aimé de tous ceux qui étaient eux-mêmes sans gloriole, La plupart du temps, il voyageait à pied, inlassablement, appuyé sur son bâton. Et c'est ce qui lui valut le nom, parmi les hommes du Nord, de Gandalf, elfe au bâton. Car il le croyait, à tort nous avons vu, du peuple des elfes. Et il se plaisait parfois à accomplir quelques prodiges sous leurs yeux, aimant tout particulièrement la beauté du feu. Mais il n'opérait ces miracles que pour le rire et le plaisir qu'on en pouvait tirer, ne souhaitant ni impressionner quiconque, ni que l'on suive ses conseils par peur. Ailleurs est relaté comment, lorsque Sauron surgit à nouveau, il se dressa lui aussi et révéla quelque chose de ses pouvoirs, et se faisant l'âme de la résistance à Sauron, remporta finalement la victoire, et ce fut le fruit du labeur patient et vigilant qui lui avait été assigné par les Valar, sous l'unique qui est au-dessus d'eux. Cependant, on dit que pour accomplir ses travaux, il souffrit des peines très cruelles, et qu'il fut tué, et que revenu de la mort pour quelque temps, il fut vêtu de blanc, puis se fit flamme radieuse, et pourtant toujours voilé, sauf en cas d'âpre besoin. Et lorsque tout fut terminé, et que l'ombre de Sauron fut chassée, il s'en alla pour toujours au-delà des mers. Quant à Curunir, il fut proscrit et réduit à la plus basse condition, et en fin de compte, il devait périr de la main d'un misérable esclave, et son esprit s'enfuit là où son destin l'entraînait, et soit à nu, soit sous forme incarnée, jamais ne revint en terre du milieu. Dans Le Seigneur des Anneaux, la seule allusion un peu générale aux Istari figure dans la note liminaire au Conte des Années du Troisième Âge, appendice B. Quand il se fut écoulé environ un millénaire, et que les premiers signes de l'ombre se furent manifestés à Verbois-le-Grand, les Istari, ou magiciens, firent leur apparition en terre du milieu. Il fut plus tard rapporté que ces émissaires, venus de l'extrême ouest, avaient pour mission de contester le pouvoir de Sauron et d'unir tous ceux qui avaient encore la volonté de lui résister. Mais il leur était interdit de chercher à lui opposer un pouvoir égal ou à dominer les elfes ou les hommes par la force et la peur. C'est pourquoi ils se présentèrent sous l'apparence d'hommes, encore qu'ils n'aient jamais paru jeunes et n'aient vieilli que très lentement. Et bien qu'ils eussent aussi de nombreux pouvoirs, tant de corps que d'esprit. Leur nom véritable, ils ne le révélèrent qu'à quelques-uns, usant plutôt des noms qu'on leur donnait. Les deux plus éminents de cet ordre, que l'on disait compter 5 membres, étaient connus chez les Eldar sous les noms de Curunir, l'homme habile, et de Mithrandir, le pèlerin gris. Mais chez les hommes du Nord, ils étaient Saruman et Gandalf. Curunir voyagea souvent dans l'Est, mais il finit par s'établir à Isengard. Mithrandir était plus proche des Eldar. Il errait surtout dans l'Ouest et ne se fixa jamais longtemps dans une quelconque demeure. Suivent des précisions sur la garde des Trois Anneaux des Elfes, où l'on apprend que Círdan remit l'anneau rouge à Gandalf lorsque celui-ci accosta au Havre Gris venant d'outre-mer. Círdan avait en effet la vue la plus longue et la plus profonde de tous les habitants de la Terre du Milieu. L'essai sur les Istari cité plus haut nous fournit donc des informations sur eux et sur leurs origines qui ne figurent pas dans Le Seigneur des Anneaux. Et il contient de surcroît quelques remarques incidentes du plus haut intérêt sur les Valar, leurs soucis persistants à l'égard de la Terre du Milieu et leur prise de conscience de leur ancienne erreur, remarques dont il ne peut être question en détail ici. On observera plus particulièrement que les Istari sont désignés comme membres de leur propre haut ordre, l'ordre des Valar s'entend, et ce qui est dit de leur incarnation physique. À noter également l'arrivée non simultanée des Istari en terre du milieu. L'intuition de Círdan, qui devina d'emblée en Gandalf le plus grand d'entre eux, les soupçons de Saruman, discernant que Gandalf était en possession de l'anneau rouge et sa jalousie à cet égard, le point de vue sur Radagast, qui ne serait pas resté fidèle à sa mission, les deux autres magiciens bleus, non nommés, qui gagnèrent l'Est avec Saruman, mais qui, contrairement à lui, ne revinrent jamais sur les terres de l'Ouest, le nombre de membres que compte l'ordre des Istari, nombre prétendu ici inconnu, mais on sait que les chefs de l'ordre venus au nord de la Terre du Milieu étaient 5, l'explication des noms Gandalf et Radagast, enfin, le mot Sindarin Ithron, pluriel, Ithrin. Le passage concernant les Istari dans les Anneaux du Pouvoir est fort proche de ce qui est dit dans l'appendice B du Seigneur des Anneaux cité ci-dessus, jusque dans la formulation, mais y figure la phrase suivante qui concorde avec l'essai sur les Istaris. Kurunir était l'aîné des deux, et il vint en premier. Et après lui vinrent Mithrandir et Radagast, et d'autres Istaris qui passèrent dans l'est de la terre du milieu et qui n'entrent pas dans ses contes. La plupart des autres écrits concernant les Istaris, en tant que groupe, ne se présentent malheureusement pour l'essentiel que sous forme de notations sommaires et souvent illisibles. Une brève et hâtive ébauche de récits offre cependant un intérêt majeur. Il s'agit en effet d'un conseil des Valar, convoqué, semble-t-il, par Manwë, et peut-être a-t-il consulté Eru, au cours duquel est prise la résolution d'envoyer 3 émissaires en terre du milieu. Mais qui donc ira? Car il leur faudra être puissants, aussi puissants que Sauron lui-même, et néanmoins capables de renoncer à leur pouvoir et de revêtir vêtements de chair afin de traiter d'égal à égal avec les elfes et les hommes et de gagner leur confiance. Mais n'est-ce point là les rendre vulnérables? Leur jugement et leur connaissance n'en seront-ils pas obscurcis, troublés par les peurs, les soucis et les lassitudes inhérents à la condition de chair? Mais deux seulement se proposent. Kurumo, choisi par Aulë, et Alatar, envoyé par Oromë. Lors, Manwë demande « Où donc est Olorin ?» Et tout de gris vêtu, Olorin venait juste d'entrer, de retour de voyage, et il s'était mis au bas bout du conseil. Et il demande ce que Manwë veut de lui. Et Manwë répond qu'il désire qu'Olorin se rende en terre du milieu en tant que troisième émissaire. Et ici, il est fait observer entre parenthèses, apparemment pour expliquer le choix de Manwë, qu'Olorin est grand ami des Eldar restés en terre du milieu. Mais Olorin se déclare trop faible pour une telle mission et dit qu'il redoute Sauron. Raison de plus, affirme Manwë, pour qu'il parte. Et lui en donne l'ordre. Suivent des mots illisibles où l'on croit lire le mot troisième. Mais à cela, Varda lève la tête et dit « Non, pas en tant que troisième. » Et Kurumo ne manquera pas de s'en souvenir. Au terme de la note, on apprend que Kurumo, Saruman, prit avec lui Aywendil, Radagast, parce que Yavanna l'en pria, et qu'Alatar emmena Palando par amitié. Sur une autre page de notes, appartenant manifestement à la même période, on lit que Kurumo fut obligé de prendre avec lui Aywendil pour satisfaire aux souhaits de Yavanna, épouse d'Aulë. Et on trouve aussi l'ébauche d'un tableau rapportant tel Istari à tel Valar. Olorin s'y trouve associé à Manwë et Varda, Kurumo à Aulë, Aywendil à Yavanna, Alatar à Oromë et Palando à Oromë. Mais Oromë remplace ici Mandos et Niena. Le sens de ces relations entre Istari et Valar s'éclaire à la lumière du bref récit cité plus haut, où l'on voit chaque Istar choisi par un Vala pour ses caractéristiques innées. Peut-être parce qu'il appartient aux gens de ce Vala en particulier, au sens où il est dit de Sauron dans la Valaquenta, le Silmarillion. Maya de la suite d'Aulë à ses débuts, il conserva une grande maîtrise de leur savoir. Il y a donc lieu de remarquer que Kurumo, Saruman, est choisi par Aulë. Rien ne permet d'expliquer pourquoi le désir manifeste de Yavanna que soit inclus parmi les Istari quelqu'un qui posséda un amour pour les créatures de sa confection ne peut être réalisé qu'en imposant à Saruman la compagnie de Radagast. Et la suggestion, dans l'essai sur les Istari, qu'en s'éprenant des bêtes sauvages de la terre du milieu, Radagast négligea la mission pour laquelle il fut envoyé, ne s'accorde guère avec cette désignation spécifique par Yavanna. De plus, dans l'essai sur les Istari comme dans les Anneaux du Pouvoir, Saruman vient d'abord, et il vient seul. En revanche, il est possible de voir une allusion à l'importune présence de Radagast dans le mépris extrême qu'il inspire à Saruman, tel que le rapporte Gandalf au Conseil d'Elrond.
Radagast le Brun, s'esclaffa Saruman sans plus cacher son mépris. Radagast le dresseur d'oiseaux, Radagast le simple, Radagast le niais, mais il eut tout juste les facultés nécessaires pour jouer le rôle que je lui ai confié.
Tandis que dans l'essai sur les Istari, il est dit que les deux qui passèrent à l'est n'avaient pas de nom, hormis Ithrin Luin, les magiciens bleus, ce qui signifie bien entendu qu'il n'était connu sous aucun nom à l'ouest de la Terre du Milieu. Ici, nous apprenons qu'ils s'appellent Alatar et Palando, et qu'ils sont associés à Oromé, bien que nous ignorions tout des raisons de cette association. On pourrait penser, et ceci reste pure supposition, que de tous les Valar, Oromé, avec sa connaissance plus poussée des régions lointaines de la Terre du Milieu, aurait spécifiquement envoyé les magiciens bleus en mission pour explorer ces régions et y demeurer. Hormis le fait que ces notes sur les choix des Istari soient certainement antérieures à l'achèvement du Seigneur des Anneaux, je ne vois rien d'autre qui permette de les situer par rapport à l'essai sur les Istari à l'époque de leur composition. Et je n'ai connaissance d'aucun autre récit sur les Istari, sauf quelques notes sommaires et en partie indéchiffrables, qui sont certainement bien postérieures à ce qui précède et datent sans doute de 1972. Nous devons admettre qu'ils, les Istari, étaient tous des Maillards, c'est-à-dire des êtres de nature angélique, mais non pas nécessairement de même rang. Les Maillards étaient des esprits, mais susceptibles de s'incarner et pouvant prendre forme humaine, et plus particulièrement forme elfique. Il est dit de Saruman, par Gandalf lui-même, qu'il est le chef des Istari, c'est-à-dire le plus élevé dans la hiérarchie valinoréenne. Et manifestement, Gandalf arrend tout de suite après lui. Radagast est donné pour un personnage de bien moindre conséquence et sagacité. Des deux autres, rien n'est dit dans les ouvrages publiés, en dehors de l'allusion aux cinq magiciens lors de l'altercation entre Gandalf et Saruman, les deux tours 3-10. Or, ces Maillards sont envoyés par les Valar en Terre du Milieu à un moment crucial de son histoire pour raffermir la résistance des elfes de l'Ouest dont décline le pouvoir et celle des hommes de l'Ouest, non corrompus par Sauron, et très en minorité par rapport à ceux de l'Est et du Sud. On peut constater qu'ils, les Istari, avaient toute latitude de faire ce qu'ils jugeaient utile en cours de mission. Ils n'avaient pas ordre, et l'on n'exigeait pas d'eux qu'ils agissent de concert, en tant que petit groupe central où seraient concentrés tout pouvoir et sagesse. Et ils avaient chacun des pouvoirs et des dispositions différentes et furent choisis par les Valar en vue même de cette diversité.